L'agité du local. Du lundi au vendredi
à 12h15 sur le 100 attends sur le
sur 107.9 101.7
sur notre radio.
Sur l'autre radio, évidemment, bonjour et bienvenue dans votre émission L'Agité du local de ce mercredi 10 mars. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, et toujours en direct à Laval où il y a un beau soleil ce matin. Ça fait plaisir.
Et oui, et un peu... Bon, on en rediscutera hors antenne du soleil, pas soleil, tout ça. Je suis pas sûre que le débat soit non plus très passionnant et mon expertise non plus. Plus intéressant, justement, on va retrouver ton reportage auprès des jeunes et des... Comment dire, de ceux qui ont mené ce chantier argent de poche à Laval. C'est dédié aux jeunes de 16 à 18 ans, donc pour leur permettre là aussi d'avoir un petit peu d'argent de côté, sachant que c'est, on le sait, un peu compliqué de trouver un petit job lorsqu'on est mineur. Justement, on écoutera ton reportage. On va aussi entendre dans cette émission la Ligue des droits de l'homme 53, donc la section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme, avec justement ce portrait dans cette semaine spéciale autour des luttes contre les discriminations. Et puis en fin d'émission, vous retrouverez notre feuilleton chez la restauratrice de tableaux Fanny Chauvet qui va nous expliquer aujourd'hui ces techniques justement, très concrètement. Je vais poser cette question, comment on restaure un tableau ? Réponse en fin d'émission.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, nouvelle victime d'un accident de la route ce matin.
Un homme de 75 ans est décédé à Marcilly-la-Ville sur la départementale 160 en direction de Champéon. Il a perdu le contrôle de sa voiture pour une raison inconnue et s'est encastré dans un arbre. Les sapeurs-pompiers n'ont malheureusement pas pu réanimer le septuagénaire.
Même si la vaccination s'intensifie, le coronavirus est toujours bien présent dans la région.
Plus de 30 000 vaccins ont été administrés dans les Pays de la Loire depuis ce week-end, mais les chiffres de l'épidémie restent hauts, avec notamment un taux d'incidence à 119,5 pour 100 000 habitants en Mayenne, et un autre indicateur à la hausse, là aussi, le taux de positivité qui s'établit à 6,3%.
Une grande campagne de tests antigéniques pour les étudiants.
Elle se déploie à Laval ce vendredi en lien avec l'Agence régionale de santé et la protection civile de la Mayenne. Elle aura lieu de 9h30 à 16h30 sans rendez-vous dans le bâtiment de la médecine préventive à l'IUT. Une deuxième journée de tests aura lieu le 26 mars pour les 400 étudiants et les personnels.
L'Agence régionale de santé veut former de nouveaux ambassadeurs.
Ces personnes chargées d'aller vers le public et de rappeler l'importance des gestes barrières, de l'isolement, de la vaccination ou tout simplement les informer. Ils sont déjà 1500 dans la région, mais de nouvelles formations sont proposées ce mois-ci en visioconférence. Ce lundi 15 mars de 9h30 à midi, représentants d'associations ou professionnels en contact avec des usagers, vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire et le mercredi 24 mars. Mars aussi de 9h30 à midi, clôture des inscriptions pour le coup, ce sera le 22 mars.
Le Mans soutenu par Christelle Morancé pour devenir capitale de la culture, un courrier très mal vu à Laval.
La présidente des Pays de la Loire a écrit à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour apporter son soutien à la ville du Mans, candidate au label Capitale Française de la Culture en 2022. Un soutien qui n'a pas manqué de faire réagir les Mayennais sur les réseaux sociaux, alors que Laval est elle aussi candidate à ce même label. Le maire lavallois Florian Bercot a rappelé qu'il aimerait aussi le même genre de courrier de soutien de la part de Christelle Morancé.
Et le foot, le Stade Lavallois renoue enfin avec le succès.
Et oui, en décrochant leur première victoire de l'année 2021, c'était hier soir face à Annecy, les Tangos l'ont emporté 2-0, ce qui leur permet de remonter la 9e place du classement de National. Ça y est, les inscriptions pour les chantiers argent de poche ouvrent ce samedi 13 mars à Château-Gontier. Dédiés aux jeunes de 16 à 18 ans, ils leur permettent de gagner un peu d'argent en réalisant de courtes missions pour la municipalité. Le concept existe aussi dans d'autres villes en Mayenne, et notamment à Laval, où tu t'es rendu Claire.
Et oui, j'étais plus exactement à Alternatri, une entreprise qui a reçu un groupe de jeunes de la maison de quartier des pavements à l'occasion d'un chantier argent de poche. Le concept, réaliser des petites tâches pour la ville à chaque vacances scolaires contre une rémunération. Fleur Guéné, coordinatrice de l'opération à Laval Aglo, nous explique le concept.
Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier qui a pour but d'aménager un appartement pour une poétesse qui va élire domicile sur le quartier du pavement. Ça sera de avril à juillet. Les jeunes là sont actuellement en train de choisir du mobilier qui sera mis au goût de la poétesse pour qu'elle se sente bien dans son appartement. C'est la maison quartier du pavement qui gère en fait tout l'accueil de cette poétesse. Donc on va là, les jeunes qu'on va voir, ce sont des jeunes du quartier du pavement qui sont entourés par les animateurs du pavement.
Donc bonjour, je suis Karima du Gléam Médiation Jeunesse. Pour une autrice, ils vont retaper les meubles et elle a un logement au niveau de la charité. Donc on a pris on a des fauteuils pour le salon. On a un petit meuble blanc pour la salle de bain, on a de la vaisselle, on a des chaises, on a un buffet pour le salon et des petits meubles. Et ils sont en train de récupérer d'autres choses pour tout le logement.
Ça concerne des jeunes du grand quartier Pavement Saint-Nicolas. Et là, on en a 5 actuellement. Ils ont à partir de 17 jusqu'à 18, des jeunes ados. C'est l'idée surtout de les impliquer dans le projet. Donc c'est un petit peu une manière de leur faire connaître ce projet autour de la littérature, qui n'est pas un sujet qui les intéresse super au début. Donc là, on a pris un autre moyen, un peu un moyen détourné de les inclure dans le projet. Et ils sont partants, pour l'instant.
Bruno Alibert, je suis donc médiateur jeunesse au sein du service jeunesse de la ville de Laval. Mon rôle, c'est d'orienter des jeunes. Je suis un peu plus dans l'insertion pour permettre à des jeunes de participer à des actions solidaires. Et avec une petite rémunération, voir un peu comment ça se passe dans le milieu professionnel, voilà, une première approche, et ça se passe très très bien. La semaine dernière, on a eu une vingtaine de jeunes qui ont participé à une concertation de jeunes, et voilà, on a toujours un super bon retour de leur part. Les jeunes sont enthousiastes, ça leur permet de découvrir plein de choses, d'être encadrés par des professionnels qui leur montrent aussi plein de choses, de nouveautés pour eux, des choses positives. Alternatri, ils œuvrent énormément dans les quartiers. Du coup, les jeunes savent, reconnaissent ces personnes-là. C'est des personnes qui sont dans l'insertion et du coup, voilà, ça permet justement d'échanger avec eux. Vu l'actualité du moment, l'échange, c'est primordial, quoi. C'est vrai que ces chantiers d'argent de poche, sur toute l'année, c'est génial, mais là, en cette période particulière, c'est encore mieux, quoi.
Joël Gauthier, je suis sur Alternat Service depuis 3 ans. Je suis directeur technique. Cette activité avec les jeunes vient d'un contrat que l'on a avec la ville de Laval, dans lequel on a une clause qui comprend de la cohésion sociale avec les maisons de quartier sur Laval Pavement. Et puis aussi de faire profiter des différents avantages qu'on peut avoir, c'est-à-dire un lieu pour pouvoir faire des chantiers, des matériaux, de la matière première, des meubles. On a des débarras de logements à faire, des encombrants à enlever, des lieux où il y a des meubles qui sont à personne, ou des décès, des fois des personnes qui décèdent et la famille nous demande de débarrasser. Et donc là, on récupère des meubles, on trie. Ce qui est mauvais, eh bien, on le met au recyclage. Le reste, eh bien, on le met à disposition lors d'actions comme celle-ci. Nos besoins, on alimente nous-mêmes avec de la récupération, des matériaux que l'on achète. Et puis, lorsque Mounir m'a demandé de faire cette action, je lui ai dit qu'il faut qu'on trouve un lieu à la fois sécurisé pour les jeunes, à l'abri des intempéries, qu'il ne fasse pas trop froid. Donc, je lui ai dit je ne te promets rien, mais je pense que pour les vacances de février, on va te dédier un local, rien que pour ça. Donc, on a mis un petit mois, on a mis un peu les bouchées doubles pour qu'ils puissent venir et être bien installé.
Je m'appelle Rania.
Et moi, je m'appelle Léane. C'est la première fois qu'on le fait, nous. Et ouais, c'est assez sympa, c'est bonne ambiance. On rigole bien. Moi, je sais que c'est la première fois que je le faisais, j'avais des a priori peut-être un peu, mais en fait, on les enlève vite. Le fait de ne pas connaître les gens et tout, du coup, là, au final, ils sont très gentils. Moi, genre, ils nous accueillent bien et tout, du coup, on est vite à l'aise, en fait.
Je savais pas que c'était comme ça, enfin, recyclage.
Je connaissais même pas l'entreprise, en fait. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. On apprend de nouvelles choses.
Enfin, oui. C'est pas un travail, genre, on a des consignes, on doit les faire. C'est surtout quelque chose, c'est bonne ambiance, on rigole, on fait un peu comme si c'était une activité de loisir, quoi.
Pour s'inscrire au dispositif à Laval, rendez-vous sur le site internet de la ville à Château-Gontier. Les inscriptions se font par téléphone dès ce samedi matin auprès du service jeunesse au 02 43 09 55 85. Pour les vacances de printemps, attention, dans les deux villes, les places partent très vite.
Oui, donc globalement, en gros, il faut appeler samedi matin pour Château-Gontier. En tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit. Vraiment, ça part très très vite. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à les appeler. Merci beaucoup Claire pour ce reportage complet. En tout cas, on va parler d'ici quelques minutes. Justement, vous entendrez l'interview du président et d'une bénévole de la Ligue des droits de l'homme de la section mayonnaise. Mais avant ça, je vous laisse écouter Crack It United avec Call My Name. My Name, The Cracked Unit. Pas United, Unit, évidemment, que j'écorche pas trop le nom des groupes non plus. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio, l'agité du local, votre quotidienne. Et à l'occasion des semaines d'éducation contre les discriminations portées dans le département par le collectif Unissons nos différences, vous le savez, on vous propose depuis lundi de découvrir quelques-unes des nombreuses associations qui composent ce collectif. Et donc aujourd'hui, ce mercredi, place à la section mayonnaise de la Ligue des droits de l'homme.
Alors, je suis Anne de Georges, je suis adhérente à la Ligue des droits de l'homme depuis un an et demi maintenant.
Pour ma part, Alain Vignier, je suis président de la section de la Vallée de la Mayenne de la Ligue des droits de l'homme depuis bientôt 5 ans. Cette section a été créée il y a 6 ans.
Donc la Ligue des droits de l'homme, donc vous dites à Laval, elle a été créée il y a 6 ans, mais c'est une section départementale d'une association nationale engagée sur beaucoup, beaucoup de sujets. Justement, est-ce qu'on peut présenter en quelques mots un petit peu le champ d'action, on va dire, de la Ligue des droits de l'homme ici en Mayenne ?
Alors, la Ligue des droits de l'homme a été créée en 1898 dans un contexte précis et autour d'un sujet précis, qui était l'affaire Dreyfus. Alors, je ne sais pas si l'affaire Dreyfus rappelle quelque chose à beaucoup de gens aujourd'hui, mais ça serait bien néanmoins, puisque l'affaire Dreyfus, c'est l'histoire d'un capitaine de l'armée française qui a été accusé à tort de complicité avec l'ennemi à l'époque, en l'occurrence les Allemands. Les raisons principales de l'hostilité qui s'est développée à son encontre étant liées à ses origines juives, avec en plus une collusion entre les menées anti-républicaines et certaines sphères des états-majors des armées françaises à l'époque. Donc ça, c'est la base de la création de la Ligue des droits de l'homme, qui s'est constituée pour soutenir Émile Zola lorsqu'il avait écrit son article « J'accuse » et qu'il s'attendait pour cette raison à être poursuivi en justice. Et depuis, la Ligue des droits de l'homme a été de tous les combats, sous des formes diverses et variées, pour faire prévaloir et pour assurer la promotion, effectivement, des libertés publiques, des libertés individuelles et des différents droits, avec un rôle de vigilance et de référence et de conseil au niveau national et au niveau international sur toutes ces questions-là. Et un membre très éminent de la Ligue des droits de l'homme, René Cassin, a été, il est décédé depuis un certain temps, a été l'un des principaux rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Il y a bien d'autres textes qui ont été inspirés par les réflexions de la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme est une organisation nationale, une association nationale. Donc chacun d'entre nous, lorsqu'il souhaite adhérer, adhère à cette association nationale. Il n'empêche que cette association nationale prévoit dans ses statuts que les adhérents localement peuvent s'organiser en section, c'est-à-dire se retrouver pour échanger entre eux et aborder les grands thèmes qui sont la raison d'être de la Ligue des droits de l'homme, à la lumière des situations locales. Donc il y a une section qui a été créée en Mayenne il y a 6-7 ans maintenant. Il y a à peu près 300 sections globalement en France, hein, des départements, il y en a plusieurs, des départements où il n'y en a pas. En Mayenne, il y en a une seule, et nous sommes bientôt une trentaine d'adhérents. Donc nous nous retrouvons tous les mois, en vidéo ou en présentiel, bien évidemment, c'est et nous échangeons entre nous et nous évaluons ce qui a été fait, nous débattons de ce qu'il y a à faire et on est surtout beaucoup en lien avec d'autres organisations, en particulier au travers de plusieurs collectifs. Je citerai bien évidemment Unissons nos différences, dans lequel la section est rentrée en 2015, d'abord pour s'associer à la démarche générale d'Unissons nos différences et ensuite pour essayer de mener quelques actions qui lui soient propres dans le cadre des semaines d'éducation contre les discriminations. Mais nous intervenons également auprès d'un ensemble d'associations qui sont liées aux problématiques accueil des migrants, lutte contre la grande précarité et hébergement d'urgence, collectif qui s'appelle le collectif d'entraide et d'initiative sociale, le COLEDIS, où on joue un rôle qui est propre, je dirais, à ce qu'est la LDH.
Justement, l'action de la Ligue des droits de l'homme est souvent, au niveau local, fédératrice. comme ça a été le cas pour la mobilisation contre la loi sécurité globale, où c'est à l'initiative de la NDH que s'est créé le collectif d'organisations diverses. Il y a 14 organisations qui ont suivi l'initiative de la NDH pour cette mobilisation contre la loi sécurité globale et de façon plus générale maintenant contre les lois sécuritaires et liberticides hein, qui se suivent depuis quelques mois.
Dans un passé relativement récent, quelques thèmes sur lesquels, enfin, thèmes importants sur lesquels ont été mobilisés, ou seuls ou en liaison avec des organisations, dans le cadre des collectifs, c'est le thème de la laïcité. Par exemple, avec la libre pensée, avec la ligue de l'enseignement, dès que le sujet laïcité émerge, soit après des interventions d'Emmanuel Macron qui avait posé un problème par rapport à une volonté exprimée de toucher à la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, soit pour accompagner des sessions de formation de personnes en situation scolaire ou de relation avec le public au niveau des administrations sur le sujet de la laïcité, soit pour aller contacter même des représentants des mosquées de Laval lorsqu'il y a des questions de laïcité en rapport avec l'islam qui sont soulevées. Donc, c'est un thème sur lequel on est très présent ou très disponible par rapport à ce thème-là. Dans le cadre du collectif COLEDIS, on a été également actif ou un peu une force un peu fédérative, comme le disait Anne, d'impulsion, pour intervenir à plusieurs niveaux sur la politique migratoire telle qu'elle s'exprime au niveau local. Alors, il y a eu deux ou trois volets en particulier. Le premier, ça a été une action coordonnée auprès des élus au moment de la discussion de la loi Collomb de 2017 sur la nouvelle loi sur les questions migratoires. Nous avons eu également des contacts et une action dans le sens de la recherche d'un dialogue et d'un échange sur les difficultés avec le conseil départemental sur l'accueil des mineurs étrangers isolés ou des mineurs non accompagnés. Nous avons eu également à plusieurs reprises des interventions au niveau de la préfecture et auprès du préfet en lien avec d'autres organisations, c'est-à-dire en accompagnement d'autres organisations sur les conditions dans lesquelles fonctionnait le service des étrangers de la préfecture.
Je voudrais ajouter aussi un autre exemple de travail au niveau local. La LDH a travaillé sur la biométrie dans les collèges et les établissements scolaires au niveau du département avec une réflexion sur l'intérêt de cette technologie intrusive qui objective le corps des enfants, hein, qui permet l'identification des personnes à partir d'une partie du corps. Donc c'était à partir d'exemples locaux, de situations locales mayonnaises, que cette réflexion sur la biométrie et sur le respect des données personnelles que la Ligue des droits de l'homme a travaillé, a alerté, y compris l'inspection académique et puis le département.
Pour revenir sur la loi sécurité globale, est-ce qu'on peut réexpliquer un petit peu tout votre engagement depuis plusieurs mois déjà contre ce texte de loi ici en Mayenne ?
D'une manière générale, depuis la proclamation de l'état d'urgence qui a fait suite aux attentats de janvier 2015, la LDH, au niveau national et au niveau local également, a été très vigilante ou très mobilisée autour de ce que signifiait cet état d'urgence, autour de la façon dont il était mis en œuvre et surtout, s'est élevée contre les reconductions successives de l'état d'urgence et ensuite, par l'inscription dans le droit commun, un certain nombre de dispositions de l'état d'urgence qui, alors qu'elles doivent être exceptionnelles, je dirais, sont devenues quasiment la normalité législative pour un certain nombre d'entre elles. Voilà. Et la loi sécurité globale est une loi qui s'ajoute à un ensemble de dispositions sur le thème de la sécurité, qui est un thème très démagogique à la limite, auquel il n'y a pas de bonne pédagogie qui est faite par le personnel politique à l'heure actuelle. C'est un thème dans lequel se sont laissés entraîner ou se sont rués volontairement les gouvernements successifs, quelles que soient les colorations politiques. Et cette loi sécurité globale a représenté pour beaucoup de gens, beaucoup d'organisations, et la Ligue des droits de l'homme, le coup de trop, ou représente le coup de trop, dans la mesure où il y a un ensemble de dispositions à l'intérieur de la loi qui confirment des pouvoirs exorbitants donnés à l'administration, c'est-à-dire aux préfectures et à la police, aux forces de maintien de l'ordre, et d'une part, mais Anne pourra être plus explicite que moi sur ce sujet-là, et puis surtout succombe, si on peut dire ça, à la fascination technologique, donc ce que certains appellent le solutionnisme technologique, c'est-à-dire à partir du moment où on a, avec les nouvelles technologies, et en particulier, si on rejoint le point précédent sur la biométrie dans les collèges dont parlait Anne, en particulier avec la capture d'images et les possibilités fantastiques, il faut le reconnaître, qui progressent encore tous les jours, de traitement des images par intelligence artificielle et de reconnaissance faciale, il nous est apparu que le législateur, poussé par l'exécutif, dans un déséquilibre entre l'exécutif et le législatif, que le législateur se laissait entraîner sans avoir pris vraiment le temps d'évaluer complètement ce qui était en train de se faire, je dirais, par la fascination technologique, d'une part, et puis se laisser un peu trop guider par les institutions de la police, qui certes ont leur rôle à jouer, mais ce n'est pas elles de dire le droit.
Je vais revenir un petit peu sur le détail de la loi. Ce qui a d'abord mobilisé, c'était l'article 24, hein, le fameux article 24 qui prévoyait de punir la diffusion d'images des forces de l'ordre dans leur action si cette diffusion était dans le but qu'il soit porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique des forces de l'ordre, avec un changement de paradigme où la personne qui faisait la prise d'image peut être soupçonnée d'emblée d'avoir des intentions malveillantes. Donc on passe du fait de punir une infraction au fait de punir un soupçon, une intention, une éventuelle infraction prévue plus tard. Alors le danger de cet article 24 était s'il est adopté, il peut rendre impossible la captation d'images des forces de l'ordre en action et donc il porterait atteinte à la fois au droit d'informer, à la liberté d'expression également. Donc ça a été le premier article qui a mobilisé. L'examen plus approfondi ensuite du projet de loi nous a permis de voir qu'il y avait d'autres articles qui étaient tout aussi dangereux et liberticides, notamment l'article 1 qui étend le pouvoir des polices municipales qui agissent sous le contrôle des maires, donc qui risquent d'entraîner une rupture d'égalité entre les citoyens, puisque la police municipale qui est donc sous le contrôle des maires n'aurait pas forcément ni les mêmes moyens, ni les mêmes actions dans les différents territoires suivant la coloration du maire, les possibilités du maire. Il y a aussi également l'extension de la délégation plutôt d'un certain nombre de missions régaliennes de la police nationale envers les polices municipales et les entreprises de sécurité privée, avec par exemple les contrôles d'identité, la palpation qui pourrait être faite par un nombre beaucoup plus important de personnes qui ne seraient donc plus l'apanage de la police nationale. Il y a également les articles concernant la captation d'images par les caméras embarquées par les policiers. Ces images pourraient être donc accessibles en direct par le poste de commandement avec éventuellement l'utilisation de la reconnaissance faciale. Même chose pour la légalisation des drones, alors que le Conseil d'État, par deux fois, a interdit l'utilisation des drones en manifestation ou pour le contrôle du respect des règles sanitaires dans le cas du confinement. Cette utilisation des drones serait donc légalisée grâce à cette loi sécurité globale, avec là aussi une possibilité d'utilisation de la reconnaissance faciale et donc une atteinte à la fois à la vie privée, puisqu'un drone capte des images de la rue, des appartements, des images avec une résolution très fine permettant d'identifier les personnes. Donc, atteinte à la vie privée, atteinte également au droit de manifester, puisque les personnes se sachant identifiées et filmées peuvent hésiter avant d'aller en manifestation. C'est donc l'ensemble de cette loi que nous combattons, parce que c'est un changement de projet de société. L'espace public, si cette loi était adoptée, l'espace public deviendrait en fait un espace de surveillance massive, généralisée, constante, de chaque citoyen. Donc on part d'un espace public partagé et en accès libre à un espace public surveillé dans lequel le citoyen est suspect d'emblée. Il doit être surveillé parce que suspect d'action possible.
La Ligue des droits de l'homme, vous l'avez compris, reste très mobilisée dans le combat contre la loi dite sécurité globale. Pour les joindre, vous pouvez envoyer un mail à sectionlaval@ldh-france.org. Petite pause musicale avec le groupe Biche et son morceau L'essor et on revient d'ici quelques minutes.
Viens,
toujours à l'écoute de la JT du local sur l'autre radio. C'était Biche avec leur morceau L'essor, évidemment. 3 minutes un peu de tranquillité. On va revenir dans cette émission. Retour de Soizic avec sa chronique Un autre écho de l'écho, consacré à un lieu qui nous manque, je pense, un peu tous en ce moment, les bars. Bonjour Soizic, alors on est ravis forcément de vous retrouver pour une nouvelle chronique et je suis un peu surprise puisque ça ne vous ressemble pas, vous voulez nous parler de sociologie de comptoir.
Eh oui, bonjour Marie. Aujourd'hui je vais effectivement vous parler d'un temps que les moins de, eh bien en fait que plus personne ne connaît, puisque je vais en effet vous parler des cafés, des bars si vous préférez. Vous vous souvenez Marie des cafés? Et là vous me dites, ah oui bien sûr, ces lieux où on pouvait boire un verre avec des amis. Alors oui, c'est cela, mais seulement en partie. Parce qu'en fait, étudier les cafés ou les bars révèle bien des choses en sociologie, si l'on ne tombe pas, bien sûr, dans la sociologie de comptoir. Alors, que nous disent les bars de nos comportements sociaux? Eh bien, le bar est tout d'abord le lieu du lien social. On y rejoint des amis, son amoureuse ou son amoureux, actuel ou potentiel pour les adeptes des rencontres online, ses collègues, etc. On y va seul ou en famille, quand il fait chaud pour se rafraîchir d'une bonne bière, souvenir, ou quand il fait froid pour se réchauffer d'un bon chocolat chaud bien mousseux, et on y va tout le temps, quand Mère Nature nous rappelle à notre fonction d'élimination. Pour mesurer l'ampleur de la place que tient le café dans notre fonctionnement sociétal, il suffit d'imaginer tous les films qui n'auraient pas vu le jour si les bars n'existaient pas. Nous aurions ainsi été privés d'Amélie Poulain et d'Un air de famille, pour ne citer que les films emblématiques. Alors, là j'ai parlé des bars en général, comme si tous les bars se ressemblaient et étaient parfaitement substituables. En sociologie, c'est ce qu'on appelle essentialiser un objet d'étude. Or, et c'est là que ça devient intéressant, les bars n'ont pas seulement une fonction de lien social, car en effet, on ne se rend pas dans n'importe quel bar selon qui on est, ou ce qu'on a à y faire. Ainsi, on ne va pas fréquenter les mêmes bars selon l'âge. Il y a des bars de jeunes, d'étudiants, ces bars dits branchés, et des bars plus cosy, les fameuses lounges, destinées principalement à une clientèle plus mûre. Par exemple, Marie, vous voyez, à Laval, la Trinquette n'accueille pas le même public que le Cap Horn. De même, la fréquentation des bars varie selon la catégorie socio-professionnelle, qu'on appelle aussi les PCS. Alors, les PCS+, comme on les appelle, celles que l'INSEE situe en haut de la pyramide sociale, fréquentent très rarement les bars PMU, réputés très populaires, car fidélisant une clientèle adepte des jeux de hasard. De même, elles ne fréquentent pas les troquets et très peu les bistrots, ces petits cafés de quartier qu'elles situent en bas de l'échelle de la reconnaissance sociale et qui seraient réservés, selon eux, à ceux qu'ils considèrent, avec une pointe de mépris social, être les poivrons locaux. A contrario, ces personnes à forte qualification et forte rémunération se rendent immanquablement dans les bars mythiques et se glorifient souvent d'y être allés, que ce soit au café de Flore, au Fouquet's ou au café de la place Saint-Marc à Venise. Ceux-là sont surtout fréquentés par les amoureux ou les couples à la recherche d'expérience, sans oublier bien sûr les Instagrammeurs en mal de photos, pas comme les autres, et qui espèrent toujours transformer leur petite vie en œuvre d'art. Vous ne retrouverez pas non plus les mêmes groupes sociaux dans les cafés de quartier qu'au Starbucks Café, par exemple. Des prolos dans le premier, des gens qui réussissent dans les seconds. C'est ainsi que le traduit la conscience collective, et pas moi, je précise, cher à Durkheim, le père de la sociologie française. Et Starbucks l'a bien compris, en inventant un concept qui permet d'afficher son statut et où on ne boude pas son plaisir de s'y montrer, de préférence en travaillant devant son laptop. Également devant un café à 5 euros, certes, mais pour ce prix-là, on vous a reconnu en tant qu'individu singulier et unique au monde. La preuve, vous avez votre prénom, qui ne ressemble ou ne s'écrit d'ailleurs comme aucun autre, clairement mis en évidence sur votre gobelet non recyclable au passage. Il y a les bars où on se sent à l'aise pour travailler, d'autres où l'on aime se détendre, d'autres encore où on est sûr de rencontrer une connaissance, d'autres réservés à l'afterwork entre collègues, d'autres où l'on drague et d'autres où on boit rapidement un café avant d'aller travailler. Vous voyez, Marie, nous ne côtoyons pas les bars et les cafés par hasard. Leur fréquentation est le reflet de nos comportements sociaux selon le statut que l'on endosse, soit à un moment précis de la journée, soit tout au long de sa vie. Ce qui nous paraît naturel et évident, toujours en sociologie, est en fait parfaitement codé selon des normes sociales que nous acceptons et que nous fabriquons également en retour. Quoi qu'il en soit, ces bars, cafés, bistrots, troquets et autres débits de boissons nous manquent énormément. Leur fermeture fait comme un trou dans la raquette sociale française et le problème, c'est que ça fait quand même 34 000 trous.
Merci beaucoup, Soizic, pour cette chronique. On vous retrouve dans 15 jours, mercredi. Toute cette semaine, plongée dans le monde de la restauration de tableaux avec Fanny Chauvet, conservatrice restauratrice installée à Bouessé depuis 9 ans. Et dans ce troisième épisode, elle va nous expliquer l'aspect technique de son métier.
Soit je travaille avec des pigments et un liant que je fais, soit avec des couleurs qui sont déjà préparées, ça peut être des gamblines. Pour nous, c'est, alors les couleurs, c'est, moi, ça ne me pose pas tellement particulièrement problème, c'est plus les, j'allais dire les noirs. Les noirs, des fois, c'est terrible. Quand on a, bah, là, vous voyez, par exemple, j'ai des tableaux qui sont un peu avec des fraises et tout ça, un peu primitif flamand. Ça, les fonds, les habits noirs et tout, c'est un peu plus compliqué parce que au niveau des noirs, c'est pas facile d'y voir déjà parce que nous, on sature beaucoup. D'abord, on met un vernis avant de retoucher très brillant pour vraiment bien saturer les couleurs et y voir. Mais sur le noir, c'est pas facile, donc il faut pas essayer de s'habiller un peu foncé pour pas se refléter dedans. Et voilà. Et puis après, il y a toujours des noirs colorés, des noirs chauds, des noirs froids. Donc ça, c'est toujours un peu, je trouve, le plus compliqué souvent. Nous, c'est vrai qu'on a un peu le nez dessus. Voilà, parfois les lunettes loupent et des choses comme ça. Après, c'est vrai que nous, on voit aussi... alors, on travaille toujours en collaboration, notamment pour les monuments historiques, avec les conservateurs qui, eux, sont plus spécialisés en histoire de l'art et qui connaissent plus sur l'histoire du tableau. Nous, c'est vrai qu'on est plus des spécialistes, le côté matériel de l'œuvre. On va déjà l'étudier, on va déjà faire un constat d'état. Donc, on peut voir aussi comment quelle facture il a, comment il a été conçu, quelles sont ses altérations. Et après, on va faire des propositions de traitement. Donc, c'est vrai que nous, ce qui est important, c'est de vraiment essayer de traiter... vraiment le plus spécifiquement possible un cas, enfin pas du tout être dans le systématisme pour que ce soit le meilleur traitement possible pour le tableau qu'on a à traiter. Donc on fait vraiment du au cas par cas. C'est vrai que c'est quand même un métier qui est très manuel, hein. À la fois, bon, c'est intéressant parce que il y a aussi avant de vraiment attaquer sur le tableau toute une réflexion de comment on va procéder, quels produits on va utiliser, pourquoi. Donc ça, nous, avant même d'en parler même aux conservateurs, c'est important de nous qu'on se pose les questions de savoir voilà, quoi choisir, quel produit. Après, ça peut arriver aussi quand on fait des lits, on propose quelque chose et finalement, ça ne fonctionne pas. Ce qui est possible aussi, voilà, ça m'est arrivé quelques fois. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'on se réunit, on se dit, bon, ben voilà, j'ai plusieurs tests. Finalement, il faut mieux partir sur ça parce que ça, voilà, ça fonctionne mieux et c'est plus adapté. Donc, c'est vrai qu'il faut toujours un peu se remettre en question et tout ça. Quand on travaille sur un tableau, on est souvent amené à l'avoir à la fois à plat et à la fois vertical. Donc, vous voyez, ce qui est bien à l'atelier, c'est qu'à la fois, j'ai une grande surface au sol avec une grande table, donc je peux travailler à plat. Mais aussi, dans le fond de l'atelier, j'ai presque 4 mètres de hauteur de plafond parce qu'aussi, on travaille aussi en ayant le tableau en vertical. Donc, c'est que le support, on va souvent travailler le tableau à plat. Donc, pour notamment retirer le châssis. Alors, soit on va renforcer le tableau, on va mettre une autre toile revers, par exemple, pour faire un doublage ou un toilage. Soit, quand c'est le support en meilleur état, on pourra mettre des bandes de tension, donc c'est surtout le pourtour pour le retendre. Et dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut travailler à plat. Mais après, pour tout ce qui est restauration au niveau de la retouche, des choses comme ça, bah, il faut qu'il soit debout. Donc, soit contre un mur, soit sur un chevalet. Donc, aussi, on utilise des fers, des petites spatules chauffantes. Et alors, soit on peut aller directement au fer, soit on a des grandes tables qui chauffent et qui aspirent pour que ce soit plus régulier.
Et demain, Fanny Chauvet nous expliquera comment elle fait avec des tableaux très abîmés qui ont même certains des visages inexistants. C'est l'heure de la rubrique Initiative présentée par Claire. Et aujourd'hui, Claire, on peut voter pour notre marché préféré.
Et oui, TF1 lance la 4e édition du concours Votre plus beau marché. C'était celui de Dieppe qui a gagné le Grand Prix l'année dernière. Pour voter, rien de plus simple, tapez sur votre moteur de recherche Votre plus beau marché 2021 et vous tomberez tout de suite sur des formulaires à remplir. Pour l'instant, ce sont des votes départementaux, s'en suivront ensuite les régionales avec 15 marchés retenus et enfin les nationales. Le vainqueur sera dévoilé la semaine du 22 juin. En attendant, les départementales sont ouvertes jusqu'au vendredi 19 mars.
On reste sur TF1, mais cette fois-ci pour un JT décalé.
C'est ce que proposent les résidents de la maison de retraite Saint-Laurent à Goron. Sandrine Cazé, art-thérapeute, a l'idée de créer une troupe de théâtre et de parodier le journal télévisé du 20h de TF1. Résultat, la vidéo cartonne sur les réseaux sociaux. C'est une manifestation façon gilet jaune pour obtenir plus de pinards au réfectoire, par exemple. Un vrai bulletin météo, un 24 heures du Mans en fauteuil roulant, un reportage pour la démission de De Gaulle. Bref, l'EHPAD a envoyé la vidéo à la chaîne, espérant un vrai passage aux 20h. Pour voir cette vidéo, rendez-vous sur la page Facebook Le JT de Saint-Laurent.
Merci beaucoup Claire pour toutes ces initiatives. C'est déjà la fin de notre émission La JT du local. À suivre évidemment à l'antenne à 19h, il y aura Novorama. À 20h, Tarens Jazz Hour. Merci beaucoup de nous suivre et à demain, toujours à 12h15 sur cette antenne. Merci et à demain. Très bon après-midi.
La JT du local, rediffusée à
18h15 sur le 107.9
à Château-Gontier
et 101.7
sur Laval.